Vous écoutez RCF Nice Côte d'Azur. Tout de suite, votre émission Culture et Spiritualité. Le père Vincent Paul Toccoli vous propose une méditation autour de son livre Le Petit Traité de la Compassion.
Tous les départs libèrent une stupeur que l'inconfort de la situation nourrit de toutes les impréparations. La précarité, par laquelle nous nous sentons happés dans cet espace où tout vacille, nous paralyse à la fois et nous déstabilise. Incapables et honteux, nous nous abandonnons insensiblement à l'engourdissement passif de ceux qui désormais laissent faire. Ne pas réagir. Ne plus penser, au mieux n'être déjà plus là. C'est du fond de cet anéantissement que pourra naître quelque chose. Donner au corps le temps de récupérer dans sa mémoire quelques impacts de son histoire. Moi qui veille, je saurai d'autant mieux inventer le geste qu'il faut que j'entrerai à mon tour dans la conscience de mon propre dénuement. Et laisserai mon corps se rappeler à moi, parce qu'en fait, il n'y a plus rien à faire. On a tant fait déjà, et ce fut bien. Du veilleur, de la sentinelle, de l'homme de service et de permanence, on attend qu'il soit disponible dès le moindre appel. Cette attente, ce stand-by, est active, ingénieuse, intelligente, vive. Prévenante et avenante, elle devine et invente. Elle sait s'intensifier ou s'effacer en fading. Elle ose avec courage, mais sans audace. Elle se tait avec patience, mais sans résignation. L'acte à poser est de type ambiental, donner une tonalité d'être. Tous les départs provoquent une inertie. Que l'angoisse de perte nourrit de tous les endeuillements, ces instants, surtout les derniers, distillent un poison que nos pauvres esprits malades utilisent parfois pour faire mal et se faire mal, sans le vouloir vraiment. Réflexe sadomasochiste du scorpion, tétanisation de l'âme, du cœur et de l'esprit, inhibant l'insurrection du désir, écrasant dans l'œuf tous les autres possibles, comme si l'ailleurs n'offrait aucun intérêt, que seul posséderait le lieu connu, comme si la distance n'engendrait que chagrin, et que le bonheur résidait dans la seule proximité, comme si le salut relevait du « toujours le même », là-bas aussi. Attise le désir. Chacun peut vivre de tant d'autres façons. Faut-il par convention, par conformisme, renoncer à ses chances? Il faut savoir sauter dans certains trains. Ainsi, la mémoire vive se découvre révolutionnaire en refusant l'ordre établi. Non pas parce qu'il est ordre, mais parce qu'étant établi, il lui répugne d'en tolérer un autre. Peut-être lui est-il même impossible de le supposer seulement. Mais une mémoire qui a travaillé à intégrer toute une existence ne craint plus grand-chose ni grand monde. C'est même avec une étonnante bienveillance qu'elle accueille tout et tous. Elle a douloureusement, mais consciencieusement appris à discerner ce dont elle sait maintenant faire ses délices. Déglutinant les pollens de tous les événements et de toutes les aventures, elle est experte à fabriquer le miel capable d'alimenter une vie fondamentalement démunie, méthodiquement lucide et résolument courageuse. Que peut-on ? Qui peut quoi que ce soit contre l'homme ? À la mémoire vive. Accompagner celui qui souffre ou qui se meurt est une position particulière, un poste spécial, une activité spécifique. Ce qui est particulier, spécial et spécifique, ce n'est pas que quelqu'un souffre ou se meurt. Voilà au contraire un événement général, ordinaire, commun. C'est plutôt que nous avons choisi d'être là, à côté de lui. À la guerre, les soldats sont ensemble pour lutter contre l'ennemi, et s'il en tombe un, c'était implicite. Le contrat tacite se vérifie. La blessure probable, la mort violente, font partie de l'engagement. Si l'on a de la peine, et l'on peut avoir beaucoup de peine, elle se transforme vite en rage vengeresse avec laquelle les chefs comptent même pour exciter leurs hommes à intensifier la lutte. Un adjuvant, en somme. Le médecin, le chirurgien, le cancérologue, s'il fait profession, c'est de guérir le patient, celui qui souffre, envers et contre tout, jusqu'à l'acharnement. Toute mort est d'abord considérée comme un échec de la médecine, et par certains praticiens comme un échec personnel. L'assassin, le bourreau, le terroriste, provoque sciemment la mort de l'autre. Les motifs divergent, mais le but est le même. Le revolver, la guillotine, la bombe, sont méticuleusement préparés pour éviter les bavures et atteindre la plus grande efficacité. Mais nous voici de notre propre chef, en face d'une personne que nous ne connaissons pas ou peu, que nous n'avons pas nécessairement choisi d'accompagner, et qui ne nous a souvent pas choisi pour cette tâche. Nous prétendons pourtant pouvoir faire quelque chose, et même ne sommes-nous pas loin de penser qu'il s'agit du plus important. Qui nous permet? Nous introduisons un virus dans la mémoire de l'acte professionnel pour combler un trou, prendre un relais, assurer une continuité. Sans être a priori anticonformiste, cette démarche n'en est pas moins originale. Elle va inaugurer autre chose. C'est notre auto-compréhension qui est interrogée, pas remise en question. Disons interpellée. Notre activité restera toujours un étonnement, comme toutes ces occupations, professions, entreprises, qui n'entrent dans aucun cadre déjà défini comme tel, car elles touchent à ces domaines sinon tabous, du moins limites, mystérieusement, et qui deviennent vite fascinants et donc malsains. Ici, la souffrance et la mort. Nous aurons beau nous en défendre. Nous sommes revêtus, nous nous revêtons d'une qualité d'autant plus inquiétante qu'elle est moins facile à circonscrire. Si nous perdions pour nous-mêmes l'étonnement, hier, aujourd'hui et demain, à propos de notre vocation à accompagner celui qui souffre ou se meurt, outre le risque de banalisation, nous courrions le danger paranoïaque de croire que l'initiative nous en revient. Une exploration spécifique de la mémoire peut contribuer à assurer et rétablir au besoin la bonne santé fonctionnelle de l'accompagnement. Il s'agit du travail de l'anamnèse, qui permet de procéder à l'investigation de ce lieu originaire, formidable entre tous, qui fait que je me trouve là plutôt qu'un autre, que je m'y sente à ma place, et que j'estime m'acquitter honorablement de cette tâche, en vérité à nul autre comparable. L'anamnèse, que l'on peut conduire seul, c'est difficile, sous la conduite d'un autre ou au sein d'un atelier de psychologie des profondeurs. L'anamnèse consiste à remonter suffisamment loin et précisément dans le passé pour permettre à l'intéressé d'établir la carte de toutes les routes, voies et chemins et jusqu'aux sentiers qui l'ont conduit à l'endroit où il se trouve. Opération lente et délicate, cette archéologie du mental passe d'abord par une purgation psychologique. Assainir du maximum de miasmes paritaires personnels les motivations de cette décision d'accompagnement. Les raisons existent, mais elles doivent être lucidement dissociées des règlements de compte avec la vie, le destin, Dieu, etc., générant toutes sortes de complexes, de névroses et de psychoses, le tout camouflé sous le manteau large de l'abnégation, de la sollicitude et de la solidarité humaine. Chacun a à se débusquer soi-même de derrière les masques protéiformes sous lesquels il lui arrive de conditionner son mal de vivre à la réalité. Sa réalité. Accompagner quelqu'un qui souffre ou se meurt nous rend différents. Nous ne sommes plus les mêmes ici et lors de nos occupations habituelles. Les paramètres sont déjà multiples qui entrent dans l'équation de nos modes d'être, âge, situation familiale, profession, environnement, expérience de la vie, conviction, idéologie, illusion, désir. Le petit prince prenait le temps de s'habiller le cœur avant de rencontrer la fleur. Il est fortement probable que nous le fassions aussi et automatiquement en partant de chez nous pour prendre notre service. Les minutes du parcours, le sas du passage ou les petits intermèdes de la vie quotidienne nous acheminent d'un état à un autre état, comme le boudoir, le vestiaire ou la sacristie sont les lieux où se prépare la dame, le sportif ou le célébrant. En sortant du mamizi, qui est le bâtiment flanquant la salle hypostyle du temple égyptien et qui servait de sacristie, de bibliothèque et de lieu d'initiation des prières, nous nous sommes délestés de quelque chose de nous pour revêtir quelque chose, quelqu'un d'autre. C'est déjà habité que nous procédons vers le lieu, lui aussi habité pour opérer une rencontre. Ce qui nous convoque dans cet espace singulier qu'est le lieu de rencontre est aussi présent dans l'autre qui m'attend. Nous sommes deux à y avoir pensé, inspiration, à nous y être préparés, initiation, à nous rencontrer enfin, célébration. Ces conduites constituent un mode d'être capable de générer des transformations significatives de notre existence. Une interaction s'amorce immanquablement entre un espace profane à ritualisation minimale, conventionnelle, et un domaine réservé où attitudes et comportements, gestes et paroles sont investis soudain de valeurs symboliques.